Donc avant de commencer la conférence sur Jacob, famille, je vouais, j'aimerais revenir sur la conférence de la dernière fois où j'étais intervenu après le propos de Jean-Noël pour dire que j'étais en désaccord radical avec l'idée que Isaac ne serait pas de la semence d'Abraham. Je dois faire amende honorable. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Noël Dumont qui a affirmé catégoriquement que Isaac n'était pas de la semence d'Abraham. Mais je reconnais que le texte peut s'interpréter ainsi, au sens où le texte ne dit pas qu'il est de la semence d'Abraham. C'est pas tout à fait la même chose de dire, c'est pas tout à fait la même chose dire que l'enfant n'est pas de la semence d'Abraham et ne pas dire qu'il est de la semence d'Abraham. Mais si on lit très attentivement, on s'aperçoit que c'est assez étonnant de ne pas le dire, cette omission, alors que, justement, on attend vraiment la naissance de cet enfant et que, pour les autres, on dit bien que Abraham connut sa femme, etc. Enfin, Abraham connut Agar ou que Adam connut Ève. Donc là, il y a effectivement une petite lacune qui est assez intéressante, d'autant plus qu'ensuite, Isaac est désigné comme l'enfant de Sarah. Alors, c'est vrai, il est désigné comme l'enfant de Sarah, par opposition à l'enfant d'Agar, mais à plusieurs reprises, on dit que l'enfant d'Agar est bien l'enfant d'Abraham, Ismaël. Alors que Isaac est bien désigné comme l'enfant d'Abraham. Alors si on regarde, de Sarah, pardon. Alors si on regarde ensuite les commentateurs, effectivement au 1er siècle, Philon d'Alexandrie, le juif, Philon le juif, a soutenu que Isaac n'avait pas été conçu charnellement, mais miraculeusement, directement par Dieu. Ce qui ensuite n'a été retenu ni par les chrétiens ni par les juifs. Voilà. Dire que l'orthodoxie s'est bien gardée d'embrayer le pas et de consacrer l'interprétation de Philon d'Alexandrie. D'une part, les chrétiens pour garder la spécificité de la conception virginale du Christ, voilà, et d'autre part, les fils d'Israël, parce que cela ne leur plairait guère de soutenir la chose. Alors pour ma part, je m'en tiendrai à une interprétation prudente et j'interpréterai cette omission de la conception naturelle d'Isaac, qui est quand même l'hypothèse qui me paraît la plus naturelle, en disant que l'omission de la conception d'Isaac par Abraham peut s'interpréter comme une préfiguration allégorique de la conception virginale du Christ. Donc ceci m'amène à préciser quelques principes d'interprétation de l'Écriture. On convient généralement, dans une bonne tradition catholique, que l'Écriture a plusieurs sens. Il y a tout d'abord un sens littéral et un sens figuré. Sens littéral, c'est vous lisez que Sarah a mis au monde un enfant Isaac, ça veut dire que Sarah a mis au monde un enfant qui s'appelle Isaac. Bon. Mais l'Écriture a aussi un sens figuré qui lui-même se subdivise en trois sens. Le sens allégorique, le sens moral et le sens apagogique. Le sens allégorique renvoie au passé de l'histoire chrétienne. Le sens moral renvoie au présent de la vie des chrétiens. Le sens apagogique renvoie à l'avenir, c'est-à-dire à la fin des temps. C'est-à-dire que les Écritures ne parlent pas seulement de ce dont elles parlent au sens littéral, elles adressent une parole destinée aux hommes de tous les temps. Autrement dit, les Écritures sont appelées à être constamment réinterprétées par les hommes de toutes les générations de manière appropriée à leurs questionnements, à leurs préoccupations. Pour en revenir au sens allégorique, le sens allégorique concerne l'interprétation des écrits de l'Ancien Testament. Interpréter allégoriquement les écrits de l'Ancien Testament revient à voir en eux des textes qui préfigurent la venue du Messie, la venue du Christ. Autrement dit, Dieu annonce à Abraham qu'il aura un descendant, Isaac, et la naissance miraculeuse d'Isaac préfigure la naissance miraculeuse du Christ. Voilà pourquoi, du point de vue allégorique, il est intéressant que le texte omette les modalités charnelles de cet engendrement, puisque cette omission préfigure cette fois une conception qui, elle, sera clairement présentée par les Écritures comme étant non charnelle. Voilà. Donc ça, on est dans l'interprétation allégorique. Ensuite, il y a l'interprétation au sens moral. C'est l'interprétation qui est, d'une certaine manière, la plus banale, la plus courante. Nous cherchons, dans les Écritures, quelque chose qui nourrisse notre vie de foi. Donc, voyant l'obéissance d'Abraham, qui accepte d'offrir son fils Isaac, je peux, à mon tour, par exemple, faire une offrande de même nature, renoncer à tout dans l'espérance de la résurrection. Et, bien sûr, au-delà de tout ça, les Écritures ont un sens apagogique. Et ceci est vrai des écrits du Nouveau Testament comme... Ça veut dire ce que je vais dire. Apagogique veut dire tout simplement ce que je vais dire. C'est-à-dire que cela annonce quelque chose qui est en cours de réalisation en vue du futur. Voilà. Donc, les Écritures ne parlent pas simplement de notre présent, elles préfigurent également la fin des temps. Et ainsi, on peut dire que, nous allons le voir tout à l'heure, les retrouvailles de Jacob et Ésaü peuvent préfigurer à la fin des temps la conversion des Juifs au christianisme qui est prophétisée également par les Écritures. Voilà. Donc, vous avez un récit, il a plusieurs sens, et il a plusieurs sens précisément parce que la conviction des chrétiens comme des Juifs, c'est que la parole de Dieu s'adresse aux hommes de tous les temps. Elle est une parole d'éternité. Et donc, au-delà du sens littéral, il y a toujours un sens caché, destiné à se manifester en son temps aux diverses générations. Donc, notre génération est appelée à son tour à scruter les Écritures pour y trouver non seulement des réponses à des questions du passé, mais aux questions du présent. Et voilà. Alors, j'en viens à Jacob, famille je vouais. À notre temps où les familles sont un petit peu en souffrance, elles l'ont toujours été, mais dans notre temps où nous voyons se profiler de nouvelles manières de vivre en famille, avec en particulier la gestation pour autrui, la procréation médicale assistée et bien d'autres choses, je crois que nous avons affaire avec l'histoire de Jacob à quelque chose qui nous concerne tout spécialement. Nous avons déjà vu avec Abraham qu'il y avait des histoires de gestation pour autrui. Nous allons en voir d'autres. Et également plein de choses assez croustillantes concernant la vie de famille. Voilà. Alors nous avons vu que selon la Bible, le Seigneur, Adonai, Yahvé, mais il faut éviter de dire Yahvé, donc il vaut mieux l'appeler Adonai. Puisqu'on ne doit pas appeler Dieu par son nom, donc on utilise la périphrase Adonai qui fit mon Seigneur. L'unique incréé se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, oui, Abraham est exemplaire par sa foi. Isaac, c'est celui qui a été offert à Dieu, qui a été une offrande à Dieu. Arrivons maintenant à Jacob. Si nous regardons l'histoire de Jacob, en la lisant très littéralement, nous pouvons trouver que cette figure est extrêmement ambiguë. Personnellement, s'il y avait un personnage de théâtre qui devait être rapproché de Jacob, je dirais que c'est Scapin. Il y a un côté Scapin chez Jacob, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément un mauvais garçon, mais qui est capable de commettre beaucoup de fourberies pour arriver à son but. Et je voudrais souligner le côté Scapin de Jacob. C'est ce qui rend d'ailleurs son histoire assez amusante. Jacob a un côté faux frère. Vous allez nous en voir qu'il va faire plein de misère à son frère aîné, Ésaü. Il va usurper le droit d'aînesse. Voilà, il déshérite son frère, tout simplement. Il est bigame. Voilà, il a une femme, une deuxième. Je rappelle que dans la Bible, il y a d'autres personnages qui sont bigames. Mais dans le plan de Dieu, c'est une anomalie. Le premier homme qui a instauré la bigamie, c'est un descendant de Caïn. Enfin, tout ça n'est pas très joli. Mais il n'est pas seulement bigame. Il est incestueux. Parce qu'il a épousé deux sœurs. Et ça, c'est formellement interdit, plus tard, par le Lévitique. C'est formellement interdit par la loi de Moïse. Bon, ça tombe bien, il vit avant Moïse, donc il n'est pas soumis à cette loi. Mais ça fait quand même des ordres, vous voyez ? Alors, il faut dire qu'Abraham avait épousé sa demi-sœur, donc il y avait déjà un mariage incestueux. Mais là, c'est quand même un mariage incestueux à trois. Et il faut dire que l'ambiance ne devait pas être très folichonne à la maison. D'ailleurs, nous allons le voir. Ça va être épouvantable. Bon, c'est un père, nous allons le voir, qui est également d'une totale partialité, au point que cela va susciter des jalousies terribles entre ses enfants, tout cela menant quasiment au meurtre. Il y a une ambiance formidable dans cette famille. Hein. Voilà. Avec Abraham, nous avions un élu de Dieu, remarquable pour sa foi. Là, nous commençons à avoir toute une famille qui a été choisie par Dieu. Et de cette famille va naître un peuple qui sera le peuple élu. Mais mon Dieu, ce peuple élu commence vraiment très mal, avec un modèle d'existence familiale que, je crois, même les familles les plus, meurtries que nous connaissons de nos jours, égalent difficilement. Alors, bien sûr, Jacob n'est pas totalement mauvais. Hein, son amour pour la plus jeune de ses épouses est touchant. Bon, il faut dire qu'il est absolument injuste avec la plus âgée des deux. Mais il est vraiment touchant. Il aime profondément sa deuxième épouse, au détriment, il est vrai, de la première. Son amour pour ses plus jeunes fils également nous touche. Bon, il est vrai que ce sont les fils de sa femme préférée et que cela suscite des actes de partialité qui sont difficilement justifiables de la part d'un père qui se voudrait juste. Bon, mais quand même, c'est un homme qui a des aspects sympathiques. Alors, voilà, comment la Bible peut-elle faire d'un individu qui a autant de défauts, même si ce n'est pas un monstre, loin de là, comment peut-elle faire de lui un patriarche ? Un patriarche. C'est d'autant plus étonnant que Jacob a un deuxième nom. Il va recevoir un deuxième nom, c'est Israël. Et ça, c'est capital, puisque cela veut dire que Israël est le héros éponyme du peuple d'Israël. On sait que dans la Bible, chaque peuple est rattaché à un ancêtre éponyme, un ancêtre qui a donné son nom au peuple lui-même. L'ancêtre qui donne son nom au peuple élu, le peuple d'Israël, c'est Jacob. Jacob, Israël. C'est vraiment important. Nous employons couramment, nous Français, le terme juif, qui est un terme impropre. Un juif ne devrait jamais se dire juif. C'est un terme qui est tout à fait inadéquat à son propos. On pourrait employer le terme hébreu, mais qui est trop large, puisque à proprement parler, les hébreux sont plutôt les descendants charnels d'Abraham, au sens propre du terme. Le terme le plus juste, c'est Ben Israël, fils d'Israël. Le peuple élu, c'est le peuple des fils d'Israël. Voyez ? Le terme juif, à la limite, ne devrait s'employer que pour les descendants de la tribu de Juda, qui est l'une des 12 tribus d'Israël, qui joue un rôle éminent. Mais le peuple élu pour la religion israélite, c'est bien le peuple des fils d'Israël, quelle que soit la tribu d'appartenance. Donc on ne devrait jamais parler de juifs, on devrait parler des fils d'Israël. Or ce peuple lui-même raconte l'histoire d'un ancêtre. Et là c'est très important. Dans la Bible, eh bien, l'ancêtre éponyme, nous importe parce qu'à chaque fois, l'histoire de l'ancêtre éponyme est significative de ce que je n'ose pas appeler la destinée, parce que ce serait un terme impropre, disons plutôt la vocation de ce peuple. Chaque peuple a une vocation propre. Il est appelé à devenir quelque chose et symboliquement, l'histoire prophétiquement et symboliquement, l'histoire de l'ancêtre éponyme dit quelque chose de la vocation de ce peuple. Autrement dit, l'histoire de Jacob Israël, avec tous ses défauts, nous montre comment le peuple d'Israël veut se voir lui-même. C'est-à-dire que le peuple d'Israël dit « Je suis un peuple imparfait. Je suis un peuple imparfait. Je ne suis pas exemplaire par ma conduite. » Alors, il y a deux épisodes clés pour comprendre l'histoire de Jacob Israël. Deux épisodes clés qui sont les deux rencontres qu'Israël fait de Dieu. Jacob rencontre deux fois Dieu dans sa vie, c'est quand même important. Et ces deux rencontres méritent d'être commentées. Alors avant d'en venir là, je vais vous donner un petit truc pour lire la Bible. C'est à la limite de la superstition, mais ça vaut le coup. Quand vous voulez savoir le contenu d'un livre et que vous êtes en librairie, vous faites comme tout le monde, vous regardez la quatrième de couverture. Eh bien, dans l'Antiquité, du moins avant le 1er siècle de notre ère, les livres ne se présentaient pas sous la forme que nous connaissons, celle de ce qu'on appelle des codex. Les livres se présentaient sous la forme de ce qu'on appelle des volumen, c'est-à-dire des rouleaux. Alors un rouleau, on ne peut pas regarder la quatrième de couverture. Mais les rouleaux, il y en a deux types. Il y a ceux qui s'enroulent entièrement sur un seul bâton, et puis il y a ceux qui ont deux bâtons et qui s'enroulent en faisant un double rouleau, si je puis dire. Et là, ces rouleaux, qui sont les plus primitifs, ils ont une particularité, c'est qu'on les enroule bien de manière bien symétrique. Quand on les ouvre pour les consulter, on tombe sur ce qui se trouve exactement au milieu du livre, au milieu du rouleau. Donc si vous voulez vous amuser à repérer des passages extrêmement importants, qui sont des clés d'interprétation d'un livre biblique, cela vaut le coup d'aller regarder ce qui se trouve exactement au milieu du livre en question. Si vous ouvrez le livre de l'Exode, celui où nous a raconté la sortie d'Égypte, d'Israël, que vous allez exactement au milieu du récit, sur quoi tombez-vous ? Les 10 commandements. Intéressant ? Intéressant. Si vous ouvrez exactement le livre du Deutéronome, qui est le dernier livre du Pentateuque, vous tombez au milieu du livre sur les 3 fonctions fondamentales messianiques qui sont prophète, prêtre et roi. Enfin, roi, prêtre et prophète. Roi, prêtre et prophète. Ce n'est pas un fait du hasard. Voilà. Donc vous pouvez vous exercer à ce petit jeu. Alors si nous ouvrons le livre de la Genèse. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des livres qui ont été recoupés, donc ça ne marche pas toujours. Mais bon, si nous ouvrons le livre de la Genèse, hein, sur quoi tombons-nous quand nous sommes pile au milieu ? Le livre de la Genèse, je vous le rappelle, c'est le livre qui certes raconte la création du monde, mais qui raconte surtout la création du peuple élu, du peuple des fils d'Israël, parce que c'est à cela qu'on veut en venir. Pourquoi le peuple d'Israël existe-t-il ? Bon. Et si nous coupons en deux le livre et que nous allons au milieu, nous tombons sur un passage décisif qui est ce qu'on appelle le songe de Jacob, qui est le moment où, pour la première fois, Dieu se révèle à Jacob, et ce passage est encore surnommé l'échelle de Jacob. Donc Jacob a fait des misères à son frère veut le tuer, il y a une ambiance extraordinaire dans cette famille, je vous le rappelle. Il s'est donc enfui, il doit aller rejoindre son oncle Laban, le frère de sa mère. Et en route, il s'arrête un soir, il fait un songe. Voilà. Et qu'est-ce qu'il voit ? Alors, il s'arrête d'ailleurs à un endroit bien précis, en un certain lieu. Bon. Il eut un songe. Voici, donc c'est chapitre 28, voilà, verset 12. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Alors, une échelle, ce n'est pas tout à fait une échelle. Il faut plutôt se représenter les choses comme un escalier monumental, comme on en voyait dans les palais babyloniens. Vous voyez le genre d'escalier avec grande marche, bien large, etc. Et vous avez des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Alors, il y a une symbolique de cette échelle qui est plutôt escalier monumental. C'est qu'au-dessus de Jacob, il y a en permanence un lien avec le ciel, un lien avec Dieu, et une communication. Vous voyez ? Autrement dit, ce qui se révèle ici, c'est que Jacob est bien l'élu de Dieu. C'est bien lui que Dieu a choisi pour perpétuer l'alliance conclue avec Abraham et Isaac. Ça n'allait pas de soi. Ce n'était pas évident du tout à ce moment-là de l'histoire. Bon. Et voici que le Seigneur se tenait près de lui, le Seigneur Adonai. Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac, et bientôt le tien. C'est moi qui ajoute. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Renouvellement de la promesse faite à Abraham. À toi et à ta descendance, pas à ton frère. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. On a déjà vu ça avec Abraham. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Renouvellement de la promesse à Abraham, qui va passer par Jacob. Vois, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que je t'ai dit. Donc alliance, le Dieu fidèle qui s'engage auprès de Jacob. Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria, « Vraiment ? C'est le Seigneur qui est ici et je ne le savais pas. » Il eut peur et s'écria que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Petit côté Stargate que j'aime bien. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, mais auparavant le nom de la ville était Luz. Je ne commente pas encore. Puis Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, ça fait beaucoup de si, hein, le Seigneur deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on imagine Abraham, quand Dieu s'adresse à lui, dire « Si tu accomplis les règles du contrat, en retour, je te donnerai un dixième de ce que je possède. » On voit ici à la fois la fidélité de Dieu et la médiocrité de la réponse de Jacob. Jacob, c'est « Si Dieu est avec moi, je veux bien. » On n'est pas du tout dans une obéissance inconditionnelle à la manière d'Abraham. Pas du tout. C'est une obéissance conditionnelle. Oui, à condition que. Pas un très bon exemple, mais il y a plus drôle. Il y a autre chose d'assez drôle. Bethel, ça vous dit rien, Bethel, maison de Dieu? Sauf que Bethel, des siècles plus tard, va devenir le culte, un lieu de culte déviant de la part du royaume du nord de Samarie où l'on adorera des veaux d'or, après la séparation entre le royaume du sud de Juda et le royaume du nord d'Israël. Donc Bethel, aux yeux des Israélites qui sont restés fidèles au culte du vrai Dieu qui doit se tenir à Jérusalem et pas ailleurs, sont horrifiés par le culte de Bethel, mais qui a son origine, une origine bien fondée, dans cette réponse de Jacob à Dieu. Mais c'est une réponse, si je puis dire, qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est une réponse conditionnelle. Je veux bien être l'élu de Dieu si ça m'est avantageux. Bon. Mais Dieu, lui, est absolument fidèle, inconditionnel. Il accomplira sa part de l'alliance. Voilà. Donc, eh bien oui, voilà. Voilà ce qu'est Israël. Israël, il est l'élu de Dieu, mais franchement, il ne le mérite pas. Et c'est ce que dit la Bible. Et c'est ce que les Israélites disent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Voilà ce qu'il faut commencer à comprendre. Il y a un deuxième passage où Dieu se révèle à Jacob de manière très directe. C'est au chapitre 32, c'est un passage très connu, c'est le fameux combat de Jacob avec l'ange. Alors, expliquons-nous là. Quand il est question de l'ange de Dieu ou de l'ange du Seigneur dans la Bible, l'ange au singulier, il n'est pas question d'un ange. L'expression « l'ange du Seigneur » ou « l'ange de Dieu » dans la Bible, en fait, renvoie à une manifestation sensible de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste sensiblement, une sorte d'épiphanie, en dit-on. Dieu se rend visible, sous une forme humaine généralement, pour se révéler. C'est ce que signifie l'expression « l'ange du Seigneur » au singulier. Il ne faut pas confondre avec un ange. Voilà. Cette deuxième révélation de Dieu se fait dans un contexte très particulier. Jacob s'est, comme toujours, un peu fâché avec l'oncle qu'il avait hébergé. Donc on est sur le retour cette fois. Avant, il partait vers son oncle, là, il en revient. Alors, ça ne s'est pas si mal passé, parce que Dieu a rangé les choses. Bon, il était quand même parti en douce, en emportant plein de choses. Bon, peu importe. Bon, c'est Jacob. Pour rentrer sur le chemin du retour, il doit passer chez son frère Ésaü, à qui il a fait certaines crasses, que je vous raconterai tout à l'heure, je vous rassure. Hein. Et son frère Ésaü, dernière nouvelle, voulait le tuer, donc il est un petit peu inquiet. Voilà. Alors il se prépare aux retrouvailles, donc il a pris quelques dispositions, voilà. Et il sait que Dieu veut absolument qu'il passe par là, donc pas très enthousiaste. Et donc la nuit, il passe une mauvaise nuit. Voilà. Surtout que son frère est beaucoup plus fort que lui. Hein. Lui, c'est un petit rablé, un petit malingre, alors que Ésaü, c'est une grosse brute. Bon, alors cette même nuit, il se leva, prit, voilà, il passa le gué du Yabok. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbure à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. » Donc c'est l'homme qui se bat avec Jacob qui lui dit « Laisse-moi. » Autrement dit, il y a une espèce de lutte toute la nuit. Et l'homme qui s'est invité, qui est en fait, on va l'apprendre, une manifestation sensible de Dieu, l'ange de Dieu, dit « Laisse-moi. » Reconnaît sa défaite d'une certaine manière. « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. » « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Autrement dit, Jacob essaie d'obtenir par force une bénédiction. Ce n'est pas la première fois. Il lui dit « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Tu as lutté avec Dieu, comme avec les hommes. Il avait déjà lutté avec les hommes. Là, il a lutté avec Dieu, c'est la nouveauté, et tu l'as emporté. Israël signifiant « fort contre Dieu ». Jacob lui demanda, « De grâce, indique-moi ton nom. Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Texte étonnant où nous apprenons le sens du nom du peuple d'Israël, fort contre Dieu. C'est un nom un peu inquiétant. Faut-il être fort contre Dieu ? Être fort contre Dieu, cela veut dire que Dieu ne nous a pas convertis, que nous résistons à Dieu. Si la vie spirituelle est un combat spirituel, l'issue heureuse du combat, c'est la victoire de Dieu sur toutes les forces qui en nous résistent à Dieu. Et ici, ce qui caractérise Israël comme Israël, c'est que justement, Dieu n'est pas venu à bout de ce qui résistait à son action. Dieu n'est pas venu à bout. Autrement dit, ce qui est le plus intéressant dans Jacob-Israël, ce n'est pas que Jacob serait une sorte de héros épique, un modèle de sainteté. Ce qui est justement intéressant dans Jacob, c'est qu'il est l'héritier d'une alliance, une alliance où le Dieu fidèle continue de tenir ses promesses, en dépit de l'indignité de celui qui est le dépositaire des promesses. Vous voyez ? En dépit de son indignité. Il y a une lutte entre Dieu et Jacob. Et justement, Jacob, c'est Israël, celui qui résiste. Il continue de résister, voyez ? Il continue de résister. Attention, résistance ne signifie pas que Jacob est perdu, bien au contraire. Si Dieu continue d'agir, c'est que Jacob n'est pas perdu. Jacob n'est pas mauvais, ce n'est pas un être foncièrement mauvais, ce n'est pas du tout un pervers. Dans ce cas-là, il n'y aurait même pas de lutte, voyez ? S'il y a une lutte, c'est que Jacob est précisément la figure de celui qui, certes, est en relation avec Dieu, mais qui n'est certainement pas sanctifié, parfaitement sanctifié, qui encore a un cœur rempli de scories, de désirs impurs, qui entre en résistance avec néanmoins un attachement fondamental à Dieu. Vous voyez ? Autrement dit, ben Jacob, c'est nous. Nous sommes comme Jacob, pour la plupart, sauf les saints. Mais si vous n'êtes pas un saint, enfin pas parfaitement, voilà, eh bien vous êtes comme moi dans cette condition de l'humanité ordinaire où nous sommes en relation avec Dieu, Dieu est en relation avec nous. Si nous sommes croyants, nous croyons que Dieu agit en nous et néanmoins nous sentons bien que eh bien c'est un dur combat et où Dieu n'a pas toujours le dessus. Et c'est dommage. C'est dommage. Voyez ? Donc nous avons une belle histoire à voir maintenant, l'histoire de Jacob. Et vous voyez que cette histoire a quelque chose de bien, c'est qu'on peut assez aisément s'identifier au personnage, voilà, plus facilement sans doute que de s'identifier à Abraham. Donc je vais reprendre un peu l'histoire de Jacob maintenant. Alors j'aurais aimé vous parler de Joseph. Joseph qui est une figure critique, mais on en parlera une autre fois, tant pis on n'en parlera pas, c'est pas grave. Enfin si, c'est, enfin, tant pis, on ne peut pas parler de tout. Donc je vais quand même me concentrer sur l'histoire de Jacob, et surtout Jacob et son frère. Voilà. Alors l'histoire de Jacob, elle commence par une rivalité gémellaire. Voilà. Elle commence déjà dans le ventre de leur mère. Car Jacob a un frère jumeau, Ésaü. Jacob a un frère jumeau, Ésaü. Leur maman, Rebecca, sent qu'il y a des querelles intestines, c'est le cas de le dire. Les frères se disputent déjà dans le ventre de leur mère, ça commence bien. Et que se passe-t-il alors ? Eh bien, Rebecca va consulter non pas un gynécologue, elle va consulter Dieu Voilà. Et le Seigneur répond à Rebecca ceci. Deux nations sont dans ton sein. Deux peuples se détacheront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre et le grand servira le petit. Le grand servira le petit. Une autre traduction possible, parce qu'il y a cette ambiguïté, c'est « et l'aîné servira le cadet ». Alors là, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Quand furent accomplis les temps où elle devait enfanter, des jumeaux se trouvaient en son sein. Le premier qui sortit était roux, tout velu, comme une fourrure. On l'appela Ésaü. Donc tout velu comme une fourrure de bête. On l'appela Ésaü. Alors Ésaü, c'est l'ancêtre d'un peuple, Édom, qui se trouve au sud de la mer Morte. C'est lui aussi le... Comme son frère, il a deux noms, Ésaü, deuxième nom Édom, et Édom est le nom du peuple le plus proche, probablement, géographiquement, du peuple d'Israël, le peuple édomite. C'est un peuple qui n'est pas sur la terre de Canaan, qui n'est pas de Cananéen, ce sont des sémites très proches des Hébreux, c'est à peu près la même langue. Hein, voilà. C'est comme, si vous voulez, les Français et les Belges, ou les Lyonnais et les Stéphanois. Ceux qui regardent de l'extérieur trouvent qu'ils se ressemblent beaucoup. Et puis quand on fouille un peu plus, on se rend compte que ces peuples frères ne s'entendent pas si bien. Voilà, et ben c'est ça, Israël et Édom sont deux peuples très très proches, sauf qu'ils se détestent farouchement, l'un méprise l'autre, et c'est épouvantable. Voilà. On raconte même qu'à l'époque où le temple de Jérusalem a été détruit par les Babyloniens, eh bien, en fait, ce sont les Édomites qui ont donné aux Babyloniens l'idée de détruire le temple. Ils leur ont dit « Oh, bah, pendant que vous y êtes, détruisez le temple !» Parce que les Babyloniens n'en auraient pas eu l'idée. Voilà. Donc, il y a une haine tenace entre les deux peuples. Enfin, ça dépend des époques. Mais voilà, ce sont deux peuples très proches et qui se haïssent. Donc là, naissance d'Ésaü. Ésaü, donc, tout de suite décrit avec des traits animaux, velus. Hein, le velu, c'est ce que veut dire Ésaü. Ésaü, c'est le velu. Voilà. C'est le poilu. Il faut imaginer le torse velu. Enfin, certaines femmes adorent ça. Bon, oui, moi j'aime bien. Bon, je continue. Et son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Pourquoi Jacob ? Pourquoi Jacob ? Parce que Jacob, en fait, c'est un nom qui évoque le talon. Le talon, c'est-à-dire, le, on pourrait traduire en langage un peu rugbystique, le talonneur. Mais talonner, chez les Hébreux, ça veut dire quelque chose comme usurper. Vous êtes sur les talons de quelqu'un pour lui prendre ce qui lui appartient, vous voyez ? Voilà, pour prendre sa place. Hein, le talonneur, c'est celui qui vous talonne parce qu'il a envie de prendre votre place. Vous voyez, dans les entreprises, souvent, on dit comme ça, vous subordonnez, vous vous rendez compte qu'en fait, il a envie d'occuper votre bureau. Donc là, il faut se méfier. Ben, Jacob, il est comme ça avec son frère. Et dès la naissance, il a agrippé le talon de son frère. Voilà, deux jumeaux, vous vous rendez compte de la proximité, et il veut prendre sa place. Bon, alors là, on se dit, bon ben voilà, la prophétie est là, bon ben tout est clair. Hein. L'aîné servira le cadet, l'aîné c'est la bonne grosse brute, il a la force physique, le cadet il est rusé, intelligent. Et d'ailleurs c'est un petit peu ce qui va se passer, mais attendez, l'aîné servira le cadet. C'est ce qu'a appris Rebecca, mais... Qu'est-ce qu'elle en a fait, Rebecca, de cette prophétie ? Est-ce qu'elle en a informé Jacob ? Est-ce qu'elle en a informé ses fils ? Est-ce que la première préoccupation d'une mère recevant ce genre de prophétie, c'est d'en parler partout autour d'elle ? Je ne sais pas, mais l'Écriture ne dit pas qu'elle le répète. Or, il se passe très vite un nouvel incident, quand ils sont plus grands.
Ésaü est devenu un chasseur, que son père apprécie beaucoup. Jacob, lui, préfère rester à la maison. Il est un peu le chouchou de sa maman.
Et oui, il est le chouchou de sa maman. Il est le chouchou de sa maman parce que le grand servira le petit, c'est le petit. Elle se dit que Dieu a un dessein particulier sur lui. Le père, Isaac, surtout s'il ignore la prophétie, privilégie l'aîné. C'est assez logique. C'est lui qui va être l'héritier de la promesse. Vous voyez ? C'est assez logique. Bon, mais à l'insu des parents, et on ne sait pas si Rebecca a jamais parlé de la question à ses fils, que se passe-t-il ? Un jour que Jacob préparait un brouet de lentilles, Ésaü revint des champs, donc ils sont devenus relativement grands. Hein. Bon. Il était épuisé et dit à Jacob, « Laisse-moi avaler de ce roux. » De ce roux-là, le brouet, le roux, c'est le même mot. C'est un jeu de mots parce qu'en plus, Ésaü est roux. Donc il est roux, il aime les lentilles, ça va ensemble. D'accord ? C'est des lentilles.
Bon, lentille, c'est roue. Voilà, et roue, tout va ensemble. Enfin, c'est Edom, pardon. C'est pourquoi on l'appela Edom. Edom, c'est le surnom qu'il va garder, excusez-moi. Bon, il est roux, il aime les lentilles, il s'appelle Edom, c'est bon. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse. » Il est astucieux, le petit Jacob. « Vends-moi ton droit d'aînesse. » Ésaü reprit, « Voici que je vais mourir, à quoi bon mon droit d'aînesse ? » Parce qu'il va mourir, on n'en sait rien. Alors là, souvent on dit c'est un signe de bêtise. Mais on peut aussi dire, mais après tout, ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. Et puis, est-ce que c'est un signe de bêtise ? On peut aussi être relativement indifférent à son droit d'aînesse. Si le droit d'aînesse est vu comme une sorte de privilège, ça veut dire qu'il n'est pas spécialement attaché à un privilège. Il y a une autre possibilité, c'est que le droit d'aînesse consiste à être l'héritier de la promesse. Dans ce cas-là, on dit qu'il est léger avec son droit d'aînesse. Il est l'héritier d'une promesse, d'une fonction particulière. Il est léger. Bon, soit. Il y aurait une faute. Jacob dit « Aujourd'hui même, jure-le-moi. » Ésaü le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob, qui lui donna du pain et du broyé de lentilles. Il mangea et but, il se leva et partit. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Alors, le problème, c'est que juste avant, il y a une prophétie qui dit « L'aîné servira le cadet ». Ironie. L'un a cédé son droit d'aînesse à la légère, l'autre l'a reçu, mais ce qu'il ne sait pas, ou il le sait peut-être. S'il le sait, c'est un saint, mais ça ne lui ressemble pas trop. ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, ce droit d'aînesse signifie que c'est lui qui va être le serviteur de son frère. Il s'est cru malin, mais c'est lui qui va être le serviteur de son frère. C'est Jacob, puisque l'aîné servira le cadet. Il a acquis le droit d'aînesse. C'est lui qui va devenir serviteur. Renversement. Pour ça que c'est intéressant, ça serait intéressant de savoir si Rebecca a dit, a transmis la prophétie. Mais là, il ne semble pas le savoir. Peut-être Ésaü le saurait. Pour ça que ça ne l'intéressait pas. Mais c'est étonnant que Jacob cherche absolument à avoir ce droit d'aînesse pour devenir serviteur de son frère, quand même. Parce que nous allons voir plus tard que ce n'est pas exactement son style. Bon. Alors, continuons le récit. Il y a eu ici inversion du droit d'aînesse, mais la prophétie est toujours valable. Oula, vous voyez, qui veut s'élever sera baissé. Qui veut s'élever sera baissé. Donc mon verre est tombé par terre, voilà, et qui s'abaisse sera élevé. Bon. Donc, voilà. Donc, il a usurpé le droit d'aînesse, bien joué, mais en fait, il a usurpé le droit de devenir le serviteur de son frère. Mais il ne le sait pas exactement. Alors, par la suite, les choses tournent assez mal, puisque l'usurpation n'est pas finie. Il y a ce premier épisode, il y a un deuxième épisode. Deuxième épisode qui, franchement, est à la limite du scandaleux. Voilà. Isaac doit bénir son fils, et il a deux bénédictions à donner, l'une à l'aîné, l'autre au cadet. S'agit-il exactement de la même chose que le droit d'aînesse que Ésaü a cédé à Jacob ? Ce n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, il y a ici une bénédiction à recevoir, et au-delà de cette bénédiction, c'est la transmission de l'alliance conclue avec Abraham qui est en jeu. Qui va être l'héritier de l'alliance avec Abraham ? Bon. Et Isaac est aveugle. Isaac est aveugle et veut donner sa bénédiction à Ésaü. Alors, pour donner une bénédiction, il faut d'abord faire un sacrifice. Donc, comme Ésaü est un bon chasseur, son père lui dit « Va donc me chasser du gibier pour l'offrir en sacrifice. » Voilà. Et ensuite, tu m'apporteras la viande, bon, ça sera très bien, et je te donnerai ma bénédiction. Alors, pendant ce temps, Jacob a éventé la chose, et avec la complicité de sa mère, puisqu'il est le chouchou de sa maman, monte un stratagème pour usurper la bénédiction d'Isaac. Il tue une chèvre. Il se revêt des peaux de chèvre pour imiter les poils. Voilà. Il prend un peu les odeurs, etc. Et ensuite, il va auprès d'Isaac en se faisant passer pour Ésaü. Ésaü dit « C'est bien toi. Isaac dit « C'est bien toi, Ésaü. Oui, dit Jacob, de sa petite voix fluette. Isaac n'est pas très sûr, donc il tâtonne. Et puis, il sent les poils de l'épaule de chèvre sur le corps de Jacob. Et donc, en toute confiance, il donne
à Jacob la bénédiction prévue pour Isaac. Pour Ésaü.
Oh, lapsus.
Bon, donc je reprends. Isaac donne à Jacob la bénédiction prévue pour Ésaü. Merci de votre collaboration. Pour Ésaü. Bon, autrement dit, Jacob a usurpé la bénédiction prévue pour Ésaü. Donc il va être l'élu de Dieu, mais par usurpation. Par usurpation. Bon. « Ô, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras terroir, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Bon. Donc là, on revient sur le droit d'aînesse avec le rapport de domination. Et ici, tel que le voit Israël, enfin tel que le voit Isaac, ce rapport est bien être le chef. Mais il y a une ambiguïté toujours à cause de cette fameuse prophétie. Ce qui fait que celui qui sera le chef, et c'est là qu'il y a une ambiguïté, en fait, les deux passages ne font pas doublon. Ce n'est pas exactement la même chose, ces deux bénédictions. Vous voyez, ici, dans cette bénédiction, il n'est pas exactement question de la transmission de l'alliance. Il est question d'établir un lien de subordination entre les deux frères. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose d'assez différent. Donc, le cadet, d'un point de vue humain, en tant qu'héritier d'Isaac et de ce qui dépend d'Isaac, va hériter de ce droit d'être le chef de son frère. Mais en tant qu'il est l'aîné désigné par la prophétie, il sera également le serviteur de son frère. C'est-à-dire qu'Israël va être sans cesse marqué par cette ambiguïté. Il est l'élu. D'un point de vue humain, il peut être le chef, mais du point de vue de Dieu, c'est mon interprétation, il est le serviteur. Il est devenu chef par usurpation, mais le serviteur en tant qu'il est devenu l'aîné, selon la prophétie de Dieu. Ça va ? Parce que la prophétie de Dieu, c'est quand même plus important que la bénédiction d'Isaac. Bon. Donc voilà, Jacob, qui a usurpé le droit d'aînesse. C'est pas forcément. Enfin, ça, c'est bien pour lui, d'une certaine manière, pour l'avenir. C'est un bon placement, mais il s'est brouillé définitivement avec son frère qui n'est pas content du tout. Et donc les choses se dégradent. Et au bout d'un moment, voilà, voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant, dit Rebecca à Jacob. Il va quand même pas laisser ses fils s'entretuer. Il faut donc. Il faut donc que Jacob s'enfuit, et sur les recommandations d'Isaac, Jacob est envoyé chez le frère de Rebecca, Laban, parce qu'il ne faut pas qu'il se marie avec une fille de Canaan. À vrai dire, Ésaü s'est déjà marié avec des filles de Canaan, ça a été très pénible pour les parents. Il faut un mariage endogame avec une jeune fille qui ne soit pas idolâtre. Donc, c'est là que Jacob est envoyé chez Laban, le frère de Rebecca, qu'on a déjà rencontré, puisque c'est lui qui a arrangé le mariage entre Rebecca et Isaac. Et donc, Jacob fuit, c'est au cours de cette fuite qu'il a ce fameux songe de l'échelle qui atteste qu'il est bien l'élu de Dieu. Donc, il a bien hérité de ce droit d'aînesse. Voilà. Et droit d'aînesse qui, en fait, fera de lui un serviteur, bien qu'il ne le sache pas. Et d'ailleurs, sa vocation de serviteur, il va commencer à la découvrir en arrivant chez Laban. Parce qu'en arrivant chez Laban, il tombe éperdument amoureux de sa cousine la plus jeune, qui s'appelle Rachel. Rachel, autrement dit, la brebis. La jolie petite brebis. Il tombe amoureux. Laban, qui est un personnage on ne peut plus manipulateur, visiblement, cette famille, Jacob et Laban se sont trouvés. Voilà. Il y a deux scapins dans la famille, c'est Laban et Jacob. Donc quand Laban voit que Jacob est tombé amoureux de la plus jeune, il lui propose le marché suivant. Tu travailles 7 ans pour moi comme mon serviteur, mon esclave, et je te donne Rachel en mariage. Jacob travaille, il est très très amoureux. Vous voyez que il a un bon fond, bon, très amoureux. Et au bout de 7 ans, donc, on lui donne Rachel en mariage. Sauf que Rachel a une grande sœur et Laban n'a pas du tout l'intention de marier la cadette avant l'aînée. Alors que se passe-t-il ? que se passe-t-il ? Un des passages les plus scabreux de la Bible, j'adore, vous allez voir comprendre pourquoi. Laban dit à Jacob, Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un banquet. Donc c'est la noce. Hein. Le soir venu, Laban prit sa fille Léa, c'est l'aînée, et l'amena à Jacob pour qu'il allât vers elle. Il était convenu que Jacob épouserait Rachel. Laban donna à sa fille sa servante Zilpa, qui devint la servante de sa fille Léa. Et au matin, surprise, c'était Léa. Autrement dit, Laban a dit, je t'amène Rachel, il amène Léa, il fait nuit. Voilà, oui, enfin bon. Alors là, c'est là. Bon, moi j'ai peut-être l'esprit mal tourné, hein, un peu scabreux, je vois que je ne suis pas le seul, vous y serez certains. Un homme passe une nuit de noces avec sa femme, il ne se rend pas compte que c'est la bonne. Il ne se rend pas compte que c'est pas la bonne. Ça pose question. Ça pose question. On a dû boire beaucoup, c'est possible. Mais enfin, même en ayant bu beaucoup, ça pose question. Donc, bon, je ne vais pas essayer de donner... Voilà, c'est quand même un peu scabreux, cette histoire. Bon, au matin, surprise, c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait là ? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Ce n'est pas la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aîné. » J'adore ce passage. Achève la semaine de noces de celle-ci et l'autre te sera aussi donné pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 années. Voilà. Et on repart pour 7 ans. Donc, il épouse l'aîné, voilà, un jour, 7 jours de noces. Il épouse la deuxième, hop, 2 pour le prix d'une. Vous voyez, c'est comme au supermarché. Voilà, Laban a casé ses 2 filles et en échange, il a obtenu 14 ans de service au lieu de 7. Bonne opération. Voilà. Donc, les fourberies Scapin, les fourberies de Laban, on est dans ces coups tordus. Belle famille, voilà. Et, mais tout n'est pas fini. Alors, tout cela, quand même, pose question, parce que pour un lecteur juif, si vous voulez, c'est un inceste d'épouser 2 sœurs. C'est un inceste, c'est très grave. Vous voyez ? Alors, certes, c'est avant la loi de Moïse. Jacob a l'excuse de ne pas connaître cette loi. Il n'est pas tenu par la loi de Moïse. Mais c'est quand même très ambigu. Et tout le peuple d'Israël va naître de ce mariage, au fond monstrueux. Et d'ailleurs, la monstruosité va se poursuivre. Parce qu'il y a 2 sœurs, Léa et Rachel. Et d'emblée, ces 2 sœurs sont présentées comme des rivales. Rachel veut dire la brebis. Léa veut dire, alors ça a double sens, celle qui a de beaux yeux, en gros celle qui a un regard, un doux regard, c'est le doux regard Léa. Mais le doux regard, c'est la vache aussi. C'est-à-dire que, alors vous ça vous fait rire parce que vous êtes français, mais je vous rappelle que beaucoup de peuples trouvent que les vaches ont un très beau regard. Il n'y a qu'en France, on n'aime pas les vaches, on trouve qu'elles ont un regard bovin, mais en Allemagne, on ne dit pas les yeux de biche dans la poésie allemande. On dit des yeux de vache. Voilà. Et c'est élogieux. Donc, si un Allemand, mesdemoiselles ou mesdames, vous dit « j'aime vos beaux yeux de vache », il faut bien le prendre. Voilà. Et si vous traduisez dans une version allemande « yeux de vache », il faut bien traduire en français « yeux de biche ». Mais l'idée est la même. Enfin, en tout cas, Léa au doux regard, la vache, est négligée par rapport à Rachel, la brebis. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que les vaches, dans l'absolu, ont beaucoup plus de valeur que les brebis. Hein. Une vache, ça vaut combien ? 5 brebis au moins. Hein. Au moins. Bon, je ne sais plus quel est le cours des vaches actuellement. Bon, peut-être 10 brebis même, hein. Facile. Hein. Bon, donc bon. Mais il néglige Léa. Il est vache avec Léa. Et il néglige Léa, mais voilà. Léa, elle est innocente et donc Dieu va privilégier Léa. Donc Léa sera féconde et Rachel stérile, du moins quelque temps. Et donc Léa devint... Donc quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et elle va enfanter. Elle en enfante 4 dans l'ordre. Rouben, Siméon, Lévi, Judas. Les 4 premiers. Leur décidé futur, je vous l'ai dit tout de suite, hein, on va gagner du temps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Rouben, c'est le fils, il est vigoureux, etc. Et même un peu trop vigoureux, parce que dans son adolescence, il va se mettre à coucher avec la servante de sa, avec la servante de sa tante, Rachel. Et pour diverses raisons, la servante, elle a eu des enfants aussi avec Jacob. Donc, Ruben, oui, elle a eu des enfants avec Ruben, pardon, encore des lapsus, excusez-moi. Bon. Donc, Ruben, il va commettre un gros inceste et il va perdre son droit d'aînesse. Siméon et Lévi. Siméon et Lévi, numéro 2, numéro 3. Ah, eux, il va se passer une sale histoire dans leur jeunesse. Leur sœur Dina va être violée. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, en fait, ça ne se passe pas trop mal parce que ça se passe à Sichem. Sichem, qui est la future capitale du royaume d'Israël, je vous le rappelle, et le jeune Sichem, qui va donner son nom à la ville, en fait tombe amoureux de la pauvre la Dina, qui sera la petite dernière de la famille. Donc Sichem propose de l'épouser. Ils disent bah, va pas épouser un païen, un cananéen. Sichem dit mais s'il le faut, j'accepte de devenir un fils d'Israël. Je veux bien recevoir la circoncision, ce qui est quand même la preuve d'un certain courage. Et, ah ouais, vraiment, la circoncision, voilà, comme ça je serai membre du clan. Très bien, circoncision. Et puis, les autres aussi, enfin, tout le clan se fait circoncire. Mais Simon et Lévi, donc il faut 3 jours après pour s'en remettre, parce que c'est quand même douloureux. Et avant que les 3 jours soient finis, Simon et Lévi prennent leur couteau et massacrent pour venger leur sœur. Alors il y en a qui font, c'est très bien. Bon, c'est pas très miséricordieux. Ça n'a pas plu du tout à Jacob, parce que Jacob, il est rusé, et donc lui, il veut pas du tout se fâcher avec la population locale, donc il en gardera rancune à Siméon Lévi, donc droit d'aînesse perdu. Siméon et Lévi seront dispersés. Et du coup, le droit d'aînesse, il va retomber sur Judas, qui est numéro 4. Enfin, il devrait tomber sur Judas. Mais j'ai pas fini avec les enfants. Parce que Rachel, elle a vu que sa sœur, là, Léa, je reviens au quand ils étaient petits, hein. Rachel, quand elle a vu que sa sœur Léa pondait des petits, et pas elle, elle se dit, bah, étudions l'hypothèse de grossesse pour autrui, petite GPA, comme avait fait Sarah avec Agar. Donc elle prend sa servante Bila, voilà, elle dit à Jacob, tu couches avec Bila et je serai la mère de l'enfant. Pof, Jacob couche avec Bila, 2 enfants. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Dan et Neftali. Dan et Neftali. Quand Léa voit que sa sœur a sorti la servante, qu'elle, elle commence à trouver, bon, c'est fatigant quand même de multiplier grossesse, donc elle prend sa servante à son tour. Il y a une espèce de compétition des ventres. Voilà. Il faut en avoir plus que l'autre. Rivalité mimétique. Il devait y avoir une ambiance formidable dans cette famille. Vous voyez, là, c'est ceux qui fantasmaient sur le trioliste. Non, là, ça passe pas. Là. Non. Dans chacune dans sa tente, le mari va voir l'une l'autre, mais visiblement, les deux sœurs, elles veulent pas se voir. Elles ne peuvent pas se voir. Hein. Bon, donc, on prend l'autre servante, Zilpa. Cette fois, c'est Léa qui met Zilpa dans le lit du mari. Il en sort Gad et Asher. Bon. Et puis, quelques temps plus tard, non, c'est pas Rachel. En fait, un jour où Ruben, le fils aîné de Léa, a des pommes d'amour, enfin, il y a de bonnes choses à manger, Rachel lui dit, tu me donnes tes pommes d'amour pour moi et mes enfants. Enfin, j'en ai pas, elle en a pas, donc, pour moi. Et Léa fait dire à Rachel, je veux bien que tu te donnes les pommes d'amour de mon fils, mais tu laisses Jacob revenir dans mon lit cette nuit. Ok ? Il y a une ambiance formidable dans cette famille. Oui, c'est formidable. Donc, vous voyez, on négocie, on a des tractations, on vend les rapports sexuels, on se prostitue en famille. Vous voyez ? Bon. Et Léa donc, va concevoir 2 autres enfants qui vont être Issachar et Zabulon. Issachar et Zabulon. Bon, et à la toute fin, quand même, Dieu se souvient de Rachel et elle va concevoir un fils qui est Joseph. Joseph. C'est plus tard, bien plus tard, qu'elle va concevoir Benjamin. Bon, je passe. Tout ça se passait du temps où Jacob était encore chez Laban, mais bon, les années ont passé. Au bout de 7 ans, il en a assez de servir Laban. Donc il s'arrange avec Laban. Il va se passer une histoire absolument épouvantable. Laban dit « Je veux bien te laisser partir. » Jacob dit « Je veux un salaire, je veux partir avec un troupeau. » On va partager le troupeau, tu auras les chèvres mouchetées rayées, moi j'aurai les chèvres qui sont de couleur unie, et c'est là que, Jacob invente les manipulations génétiques. Je l'ai dit, il y a tout, il y a les OGM là. Il invente les OGM. Alors les OGM de l'époque, c'est une espèce de manipulation magique. Chaque fois qu'un bouc commence à grimper sur une chèvre, eh ben, on agite devant des bâtons, et des arbustes qui vont ensuite... produire chez la chèvre qui regardait le bâton pendant la saillie, ça va produire une sorte de mutation qui fait que la chèvre va avoir l'aspect que voulait Jacob. Donc Jacob a triché, voilà. Il s'est arrangé pour que le troupeau de Laban ne produise plus que des chèvres du modèle et qui devaient revenir ensuite à Jacob. Donc après avoir arnaqué son beau-père et oncle, bon... Jacob finit par décider de partir en douce, quoi, enfin voilà, à l'anglaise, avec son troupeau. Alors ça peut aller, mais Laban le poursuit. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Finalement, Dieu intervient, dit à Laban, écoute, tu laisses tranquille Jacob. Mais Laban insiste quand même un petit peu parce qu'il s'est produit quelque chose. La petite Rachel, qui est tellement mignonne, qu'est-ce qu'elle a fait en partant de chez Laban? Elle a emmené les idoles familiales. Donc la petite Rachel, non seulement cette petite peste, elle a accepté d'être la deuxième femme de sa sœur. Elle est la chouchoute. Vous imaginez l'ambiance, hein ? Bon. Mais en plus, on apprend qu'elle est idolâtre, la coquine. Et elle est tellement idolâtre qu'elle vole son père pour emmener avec elle des idoles, sachant que son mari, normalement, célèbre le culte du Dieu unique. Voilà. Alors là, il y a un passage hallucinant où Laban rejoint Jacob et dit « Je veux bien que tu partes avec le troupeau, tu m'as arnaqué très bien, c'est de bonne guerre, mais je veux retrouver mes statuettes. » Et alors là, il se passe quelque chose de terrible parce que Jacob dit à Laban « Écoute, moi je n'ai rien volé, mais la personne qui a volé ça, elle pourra être condamnée à mort. » Comment Rachel s'en sort-elle? Et vous allez voir ce que c'est que la piété de Rachel. Rachel s'assoit, s'installe dans sa tente, elle s'assoit sur les idoles. Il y a des lieux plus respectueux pour placer des idoles. Hein. Si vous adorez, si vous avez une statuette de la Vierge Marie et que vous la planquez, voilà, j'espère que vous, mesdames, vous ne la planquerez pas sous votre robe, sous vos fesses. Enfin bon, d'accord? Bien. Mais ce n'est pas tout. Quand Laban arrive et commence à fouiller, elle dit: je ne peux pas bouger, papa. Aujourd'hui, j'ai ce qu'ont les femmes. Alors, les pauvres idoles, non seulement elles s'assoient dessus, mais elles s'assoient dessus quand elle a ses coquelicots. Ça fait quand même, ça en fait quand même beaucoup. Donc, elle est idolâtre, elle n'est même pas fichue de respecter ses pauvres idoles. Avec tout ce qui tourne autour du tabou du sang des règles, j'aime autant vous dire que ça pose question, en rapport avec son infécondité, d'ailleurs, et sa fécondité nouvelle. Il y a là une question. Il y a tout un interdit sur les menstruations dans la Bible qui, semble-t-il, vient de ce que le sang est en quelque sorte la propriété de Dieu, puisque le sang, c'est ce qui donne la vie. Voilà pourquoi quand on verse le sang, quand on tue un homme, on commet un péché contre un homme, mais aussi un péché contre Dieu, puisque le sang appartient à l'origine à Dieu et doit revenir à Dieu. Voilà pourquoi, on l'avait vu à propos de l'interdit de la consommation du sang chez Noé, on ne doit pas consommer le sang des animaux parce que ce sang doit revenir à Dieu. D'où, justement, tous les interdits autour du sang des règles, parce que lorsqu'une femme perd du sang, son règle, c'est un sang qui, de plein droit, revient à Dieu. Donc, elle est dans un état où un homme ne doit pas l'approcher, parce que ça serait s'approprier une sorte de puissance vitale qui, en quelque sorte, est l'affaire de Dieu à travers la femme. Vous voyez, l'homme, s'il s'approche de la femme dans ces conditions, touche à un mystère qui ne lui appartient pas, quelque chose de sacré, donc ça doit rester à part. Alors cette idole, si vous voulez, dans le sang des règles, il y a ici une sorte de mélange assez intéressant de sacré impur, voyez, d'idolâtrie, et en même temps de renvoi à Dieu dans le cadre de ce qui demeure quand même un vol, et le vol de son père. Donc elle est en train de rompre avec son père, tout en restant dans l'idolâtrie. Voilà.
Alors Rachel va finir douloureusement en mettant au monde Benjamin, le petit dernier, le 12e des fils d'Israël. 12e des fils d'Israël, après des péripéties, dont le viol de Dinah, que je vous ai déjà rencontré par anticipation. Viol de Dinah qui est l'occasion de découvrir la violence de Siméon et Lévi. Et peu après la mort de Rachel et la naissance de Benjamin, nous apprenons que Rouben a déshonoré la couche de son père en couchant avec Bila, donc la servante de Rachel, c'est-à-dire la mère de ses demi-frères. C'est du beau. Voilà. Nous apprenons la mort d'Isaac, qui n'était pas encore mort. Et nous allons arriver ensuite vers une nouvelle histoire. C'est l'histoire de Joseph et ses frères. Alors Joseph et ses frères, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, simplement dire que Joseph, au début de l'histoire, est le fils aîné de la femme préférée, mais n'est que le 11e fils. Et que le rapport de Jacob à Joseph est très ambigu. Une ambiguïté qui doit s'interpréter comme prophétique. Pourquoi ? Parce que par la suite, ce qui va se produire, c'est que le royaume d'Israël va être divisé. Il va être divisé à partir de à peu près l'an 930 de notre ère, à la fin du règne de Salomon. À la fin du règne de Salomon, le peuple d'Israël se trouve divisé, avec au sud le royaume de Juda, qui est le royaume d'une seule tribu, en fait il y en a deux, c'est Juda et Benjamin, et au nord le royaume des 10 tribus, le royaume d'Israël. Le royaume du sud va être gouverné par une dynastie unique, de descendants du roi David, qui sont de la tribu de Juda. Le royaume du nord, lui, va être gouverné par des usurpateurs dont les premiers sont de la tribu d'Éphraïm, qui est une des deux demi-tribus issues de Joseph. Autrement dit, ce qui se dessine dans la rivalité en fait discrète qu'il y a entre Juda et Joseph, c'est deux filiations rivales par rapport à Israël. Qui est l'aîné ? Est-ce que l'aîné, c'est celui qui descend de Joseph ou celui qui descend de Juda ? Qui est l'aîné ? Vous voyez, il y a une énorme ambiguïté. Cette ambiguïté, elle va persister, mais ce qui concerne Joseph est très intéressant parce que Joseph, lui, contrairement à Jacob, Dieu est avec lui. Et Joseph, lui, sera exemplaire. Alors certes, dans sa jeunesse, il est insupportable. C'est-à-dire qu'il fait tout pour se faire haïr de ses frères. Mais Joseph va être rejeté par ses frères. Il va être vendu en esclavage par ses frères. Et c'est après avoir séjourné en prison, il séjourne deux fois en prison en plus, parce qu'en Égypte, il va à nouveau être mis en prison, le pauvre, que cette fois, on va apprendre que Dieu est avec lui et que tout ce qu'il fait, il le fait par Dieu. Donc Joseph, lui, va être porté par Dieu. À l'opposé, la destinée de Juda est moins glorieuse. Juda, lui, il couche avec sa belle-fille, et encore, il a fallu que sa belle-fille se fasse passer pour une prostituée pour qu'il couche avec elle. Bon, c'est moins glorieux. Voilà. Donc, le problème du droit d'aînesse se posera toujours. Alors, je vais quand même revenir en arrière, après cette anticipation, pour dire que l'histoire de Joseph mérite considération, pour quand même finir mon exposé. Revenir à un des moments les plus beaux de toute l'histoire de Jacob. Je vous ai dit que Jacob, ayant quitté Laban et emmenant avec lui sa famille, doit passer par le territoire d'Ésaü, son frère. Et là, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Jacob a peur. Il y a de quoi ? Il y a de quoi ? Il a peur. C'est là qu'il connaît une nuit d'angoisse. Il a tellement peur qu'il décide de diviser sa famille en deux. Mettre d'un côté Léa et les siens, de l'autre les autres. Comme ça, si jamais Jacob commence à massacrer un des deux camps, Ésaü commence à massacrer un des deux camps, l'autre pourra fuir. Il cherche à préserver ses petits. Ensuite, quand il arrive devant Ésaü, Jacob se met en tête de convoi, puis place Jacob, se rendant devant Ésaü, met toute sa famille en place, et il la met à la queue leu-leu, en plusieurs groupes, en mettant tout à la fin ses chouchous.
Rachel et les petits de Rachel, voilà, devant ceux qui étaient moins, voilà, et plus c'est précieux, plus on est en queue de peloton. Et que se passe-t-il quand il arrive devant Ésaü ? Que se passe-t-il ? Mon Dieu, c'est épouvantable. Que se passe-t-il ? Il y a d'autant plus de suspense qu'on sait que par la suite, les Édomites vont apparaître comme les ennemis jurés des Israélites, un peu comme les Stéphanois avec les Lyonnais. Donc, que fait le Stéphanois de l'histoire ? Qu'est-ce qu'il fait, le Stéphanois ? Non, je plaisante. Ah. Alors, il faut préciser que Jacob, avant de rencontrer Ésaü, a pris des précautions. Il a commencé par envoyer des messages avec des cadeaux, des gros cadeaux, pour se concilier la faveur d'Ésaü. Et il a envoyé comme message « Ainsi parle ton serviteur Jacob. Ainsi parle ton serviteur Jacob. » Il reconnaît qu'il est le serviteur d'Ésaü. Lui qui avait usurpé le droit d'aînesse se fait le serviteur de son frère. Voyez. Et quand il se présente à son frère, Ésaü dit « Qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé ?» Oh, pardon, excuse-moi, là, je me trompe de page. Bon, je reprends. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes. Ça, c'est moins précieux. Et leurs enfants, il y tient moins. Puis Léa et ses enfants, deuxième choix. Donc, troisième choix, deuxième choix. Puis Rachel et Joseph, les chouchous. Lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre, jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. J'imagine toujours la rencontre entre Jacob et Ésaü, tournée avec Louis de Funès et Bourvil. Voilà, je verrais bien Jacob joué par Louis de Funès et Ésaü joué par Bourvil. Ésaü, enfin, sauf que Bourvil n'était pas assez physique, donc il faudrait plus physique que Bourvil. Bon. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Autrement dit, Ésaü pardonne tout à Jacob. C'est un acte de charité pure. Jacob était dans le calcul, dans la terreur, voyez, et son frère lui répond par l'amour fraternel, tout simplement. Et plus tard, Jacob, qui a prévu plein de cadeaux, qu'est-ce qu'il fait ? Ésaü dit, qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé ? Tout ce camp, c'est tous les cadeaux qu'il a envoyés. Il a envoyé du bétail, etc., des tentes. Je voulais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Vous voyez, mon Seigneur, Ésaü, mon Seigneur Adonai. Il est même obséquieux, hein, Jacob. Ésaü reprit, j'ai amplement pour moi, mon frère, que ce qui est à toi reste à toi. Ésaü refuse le cadeau. Garde. Jacob s'écria, non, je t'en prie. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. Un petit peu de gratuité quand même. En effet, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu et que tu m'as agréé, reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté, car c'est Dieu qui m'en a gratifié. J'ai tout à moi. Autrement dit, ici, Jacob prend conscience que cet amour fraternel, c'est un amour inspiré par Dieu. J'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu et j'ai cru que j'allais mourir et je ne suis pas mort. C'est-à-dire que cet amour du prochain, il reflète l'amour de Dieu. L'amour de charité. Donc, ce que va découvrir Isaac, à travers toutes ses pérégrinations, c'est quand même l'amour de Dieu. Mais un amour qu'il n'a pas su reconnaître tout de suite. Un amour auquel il a résisté. J'ai dit Jacob ? Jacob, voilà, Jacob. Jacob, Isaac, Ésaü. Bon, donc ce que découvre Jacob, je suis très fatigué, excusez-moi. Ce que découvre Jacob, c'est justement l'amour de Dieu dans l'amour fraternel. Alors, j'aurais encore beaucoup à dire. Je vais quand même le dire un petit peu. À mon sens, le sens profond de cette histoire de Jacob est lié à la notion de sacerdoce d'Israël. Israël est un peuple sacerdotal, un peuple de prêtres. C'est un peuple de prêtres. C'est-à-dire un peuple qui joue un rôle sacerdotal par rapport aux autres peuples. Donc l'élection d'Israël, le choix d'Israël par Dieu, signifie que ce peuple est au service des autres peuples. Il est au service des autres peuples pour porter, pour répondre, en quelque sorte, aux exigences de Dieu. Qu'est-ce qu'un prêtre ? Le prêtre, c'est celui qui va porter à Dieu les offrandes que lui ont transmises les membres du peuple. Il va les porter, c'est-à-dire qu'il va s'avancer vers le Dieu, le maître de la vie et de la mort. Il est porteur de ces offrandes en vue de concilier la grâce de Dieu, mais pour les autres. Vous voyez, d'attirer la grâce de Dieu sur les autres. C'est ça le service d'Israël. Le rôle du peuple d'Israël, c'est d'abord de rendre à l'ensemble de tous les hommes ce service qui est le service, je dirais, sacerdotal. Le fait d'offrir, de répondre à Dieu en apportant les offrandes des hommes, qui sont une manière de se reconnaître débiteur de Dieu. On l'a vu déjà avec Jean-Noël Dumont, Dieu donne tout. Tout ce que nous recevons est un don de Dieu. Mais recevoir le don de Dieu, ça veut dire ne pas se l'approprier. Il faut donc répondre au don par ce que les anthropologues appellent un contre-don, qui sera d'une valeur dérisoire par rapport au don premier, puisque Dieu donne tout. Mais le sens de ce contre-don, c'est de dire à Dieu qu'on accepte de recevoir ce qu'il a donné. Vous voyez ? Le rôle du prêtre, c'est ça. Porter le contre-don devant Dieu, pour les autres hommes. Et Israël joue ce rôle, le peuple d'Israël. Sauf que le risque pour tout prêtre, c'est de s'approprier sa fonction. C'est de ne plus se concevoir comme serviteur. C'est de se concevoir comme un chef. Il y a cette ambiguïté permanente. Pourquoi le peuple élu est-il élu ? Quelle est sa vocation ? Est-ce qu'il est élu pour lui-même ? Pour en tirer profit ? Pour en tirer orgueil ? Ou est-ce qu'il est élu pour le service des autres ? Voilà la question. À mon sens, les Écritures disent qu'il est élu pour le service des autres. Mais il ne le sait pas toujours. Il a tendance à l'oublier. C'est là un point très important, parce qu'au-delà du sacerdoce d'Israël, ce qui est en question, c'est la mission de l'Église dans le monde. Est-ce qu'être chrétien, c'est être chrétien pour son propre salut ? Ou est-ce que ce n'est pas aussi être chrétien pour ceux qui ne le sont pas, d'une certaine manière ? Pour contribuer au salut des autres ? Voilà la question. Est-ce que les chrétiens ne s'approprient pas, en quelque sorte, la mission qu'ils ont reçue de Dieu pour, en quelque sorte, leur propre profit ? Alors que leur mission est d'abord de service. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont l'histoire de Jacob et Ésaü a été interprétée au fil des siècles. Il est très intéressant de savoir que saint Augustin, père de l'Église, a dit, en fait... Alors, il y a une interprétation donc, qui a circulé, qui consiste à dire que Jacob est le gentil, Ésaü le méchant. C'est contredire le texte, puisque c'est Ésaü qui va pardonner. Alors que Jacob, lui, a des comportements au minimum ambigus. Mais... Et le plus inquiétant, c'est que saint Augustin dit Jacob est le gentil, quitte à forcer le texte, Ésaü le méchant, quitte à forcer le texte, même si Ésaü a commis la faute de mépriser son droit d'aînesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au deuxième et entre le deuxième, troisième et quatrième siècle, de leur côté, les Juifs dans le Talmud vont raisonner de la même manière, dire Jacob est le gentil, Ésaü le méchant, quitte à forcer le trait. Vous voyez, à forcer le texte en disant Ésaü est méchant et Jacob est gentil. Bon. Et cette fois, Jacob représenterait le peuple, représenterait allégoriquement le peuple d'Israël. Ésaü représenterait dans un premier temps les Romains, puis les héritiers des Romains qui sont les chrétiens. Et on louerait Ésaü d'arriver à tromper, Jacob d'arriver à tromper Ésaü face à ces bonnes brutes idiotes. Qu'il faut manipuler. Mais de même, saint Augustin, c'est assez inquiétant. Parce que saint Augustin dit, Jacob, c'est le chrétien, et Ésaü préfigure Israël, enfin, le peuple d'Israël. Ce qui force aussi le texte. Ce qui préfigure le peuple d'Israël, non, c'est... Voilà. On est dans la théologie de la substitution. Alors, saint Augustin a ses raisons. Hein, il est assez nuancé sur la question. Je pense qu'il vaut mieux prendre ses distances avec ses interprétations. Et bien prendre conscience que le lecteur est invité à s'identifier avec Jacob, mais à s'identifier avec Jacob en tant qu'il est un pécheur, et qu'il est indigne de la vocation, et qu'il en devient indigne quand il se l'approprie. Et c'est pourquoi il faut toujours se dire, Israël c'est moi, mais Israël c'est un être extrêmement ambigu, dont le nom veut dire fort contre Dieu parce qu'il a résisté à la grâce. Je vous remercie de votre attention.